la paix. Il est 18h.
De la paix. Yo, oh la dame, merci.
Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir et bienvenue à tous sur les 96.0 FM Radio de la Paix à Abidjan et ses environs. À la une de ce 18h, les jeunes du RHDP se préparent déjà pour les futures échéances. Ils ont récemment tenu à Abidjan un séminaire de réflexion pour garantir la victoire de leur parti à la présidentielle de 2025. Nous parlerons dans ce 18h de notions financières. La Côte d'Ivoire passe de BA3 perspective positive à BA2 avec perspective stable selon l'agence Moody's. Une note qui démontre que la Côte d'Ivoire est crédible même si le risque de solvabilité est supportable, explique Fauston Onozon, économiste et expert en intelligence économique. Au Sénégal, les conclusions du dialogue national ont été remises au président Macky Sall ce lundi, qui en a pris acte selon un communiqué de la présidence. Voilà pour nos grandes lignes. La jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a organisé un séminaire autour du thème « Quelle stratégie de remobilisation des jeunes du RHDP ?» C'était du 1er au 3 mars dernier à l'INGS de Marcory. Comment travailler efficacement sur le terrain pour garantir une victoire écrasante du RHDP et de son président Alassane Ouattara lors des prochaines joutes électorales de 2025 était l'un des points majeurs de cette rencontre. Les détails avec Jean-Mélène.
La jeunesse du RHDP ne veut plus laisser le terrain jusqu'à la victoire finale de son mentor en 2025, Koné Mamadou.
Ce séminaire a l'effet de réfléchir et d'adopter les règlements intérieurs de la jeunesse du parti, de valider la feuille de route des délégués et de la matrice d'action. Alors, c'est un moment important pour nous de réfléchir en tant que jeunes afin de garantir une victoire écrasante à notre parti dès le premier tour en 2025. Après le séminaire, nous aurons les tournées sur le plan national. Mais nous, en tant que président de la jeunesse du RHDP, il nous faut quand même élaborer une stratégie à l'endroit des jeunes.
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, par ailleurs porte-parole du RHDP, Touré Mamadou a, au nom du directoire, mis en mission la jeunesse du parti.
L'objectif, il est clair, faire élire le président Alassane Ouattara au premier tour en 2027. Monsieur le président, au nom de la direction du parti, je voudrais vous fixer l'objectif. L'objectif, c'est d'enrôler 1 million de nouveaux majeurs sur la liste électorale. En vue de consolider l'avancée du RHDP sur la liste électorale.
Environ 350 délégués départementaux venus de toute la Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre et ont marqué leur indéfectible soutien au président Alassane Ouattara dans une motion.
Merci à vous Jean-Mélène Buiti. Parlons de la célébration de la 34e journée mondiale de la protection civile commémorée le vendredi 1er mars dernier en Côte d'Ivoire et précisément à Daoukro. Plus de 600 interventions ont été réalisées par les pompiers civils de l'IFOU en 2023, a affirmé le chef de cantonnement Ibrahima Sori lors de cette journée. Journée porte ouverte également ponctuée par diverses activités dont une conférence sur le thème de l'édition, les technologies innovantes au service de la protection civile, animée par le deuxième adjoint au maire de la commune de Daoukro, Bédier Guillaume. Notre correspondant sur place, François Kra, nous en parle.
Le chef du centre de la protection civile de l'IFOU, Ibrahima Sori Doumia, revient sur l'importance du thème à l'ordre du jour.
Nous, en tant qu'hommes de terrain, savions l'importance des technologies innovantes. Aujourd'hui, les téléphones nous permettent d'alerter les pompiers en cas d'urgence. Nous avons les drones pour les reconnaissances et recherches en milieu hostile ou périlleux. Les portatifs pour la coordination des interventions et plein d'autres appareils au service de la protection civile pour les aider à sauver des vies.
Le bilan des interventions enregistrées l'an dernier en dit plus.
Pour l'année 2023, le centre de protection civile de l'IFOU a enregistré 642 interventions qui ont fait au total 669 victimes. Et malheureusement, nous déplorons 17 cas de décès. Notons que les accidents de circulation dominent avec 306 cas de nos sorties qui font environ 48% de nos interventions.
Pour le préfet de Wolé, Sourou Sana, un soutien multiforme aux soldats du feu les rendra encore plus opérationnels.
Je pense que chacun de nous n'est pas à l'abri d'un sinistre, d'une catastrophe. Donc il s'agit d'être regardant vis-à-vis du centre de protection sociale. Chacun, selon ses moyens, peut apporter sa petite pierre à l'édifice sans forcément attendre d'occuper une fonction publique.
Des démonstrations en matière des gestes de premier secours pour éviter des incendies dans l'usage du gaz de cuisine et des accidents de la circulation ont été présentées à l'assistance. François Kra, Daokro, Radio de la Paix.
Et s'agissant de la campagne mondiale sur la sécurité routière pour la zone Afrique, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière était à Boaké ce week-end, le 2 mars précisément, pour justement le lancement de cette campagne. L'intervenant a souligné que les accidents de la circulation ont un impact négatif de 7% sur le PIB, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. En ligne de Boaké, notre correspondant Joseph Assali.
En sa qualité de maire de Boaké, le ministre des Transports se félicite du choix de sa localité pour abriter le lancement de la campagne mondiale de la sécurité routière pour la zone Afrique. Amadou Koné en donne la raison.
Je suis très heureux que le message soit lancé à partir d'une ville qui enregistre en moyenne un tué tous les deux jours sur la route, généralement des utilisateurs de drogue.
Au plan national, les chiffres sont également effarants.
Les statistiques indiquent que plus de 60% des décès sur nos routes en Côte d'Ivoire sont des utilisateurs de deux, trois roues et des piétons. En 2022, nous avons enregistré en Côte d'Ivoire un peu plus de 1500 tués. Sur les 1500 tués, 1000 tués en Côte d'Ivoire en 2022 qui étaient des utilisateurs de deux roues, trois roues et des piétons. Ça fait globalement un peu plus de deux tués tous les jours sur les routes en Côte d'Ivoire.
Cela n'est pas sans conséquence au plan économique, indique Jean Dodds, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé de la sécurité routière.
Ces accidents ont un coût économique considérable, environ 7% du PIB de la Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale.
En marge de cette campagne sur la sécurité routière, des élèves ont été formés, des casques ont été remis à 300 détenteurs d'engins à deux roues et des documents sur la sécurité routière ont été offerts au système éducatif. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Notation financière des pays. Depuis le 1er mars 2024, l'agence Moody's a rehaussé la note de la Côte d'Ivoire allant de BA3 perspective positive à BA2 avec perspective stable. Cette note positionne le pays comme le deuxième meilleur crédit de l'Afrique subsaharienne derrière le Botswana et aux côtés de l'Afrique du Sud. C'est notamment ce qui ressort d'un communiqué publié dimanche dernier par le ministère ivoirien des Finances et du Budget. Alors que comprendre par la note BA2 avec perspective stable? Là-dessus, écoutons les explications de Faustin Aonozon, économiste et expert en intelligence économique. Il est en ligne avec Jean-Claude Comé.
Vous savez que ces dernières années, notre pays est sur le marché financier. Et lorsqu'on est sur le marché financier, c'est bien évidemment pour pouvoir s'endetter et réaliser nos objectifs publics en matière de développement. Et donc, ces structures-là sont bel et bien informées. Ce sont elles qui, généralement, nous donnent une note. Et c'est à partir de cette note-là que notre pays peut s'avérer crédible ou pas.
Alors, parlons précisément de cette notation de l'agence Moody's. Disent de BA3 à BA2. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Alors, de BA3, quand on parle à BA2, cela signifie par exemple que les obligations ne sont pas aussi vulnérables que ça à court terme, mais peuvent quand même faire l'objet d'une incertitude un peu dans le long terme, surtout quand certaines conditions économiques et financières et même commerciales ne sont pas réunies. Mais il y a une chose qu'il faut peut-être vous rappeler, c'est que une santé financière est véritablement exceptionnelle quand on est dans le type A, par exemple. Et le type A, il y a 11 pays, je crois, dans le monde qui sont notés type A, dont 8 sur le continent européen, par exemple. Alors, lorsqu'on va dans B, vous allez voir aussi que là-bas aussi, le risque d'insolvabilité est faible, mais peut être affecté, si on y prend garde. C'est ce que ça signifie. On est dans un risque d'insolvabilité qu'on peut supporter.
Vous écoutiez Faustin Onozon, économiste et expert en intelligence artificielle, sur la note donnée par l'agence Moody's de la Côte d'Ivoire, qui passe de BA3 avec perspective, qui passe maintenant à BA2 avec perspective stable. Parlons agriculture, avec l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques en collaboration avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il a été mis en place des groupements de défense sanitaire dans la filière des ruminants à San Pedro. Les éleveurs de la cité balnéaire ont été formés aux notions de base sur la reconnaissance des maladies animales. Les détails avec notre correspondant Kofi Benson.
Apporter une réponse aux risques sanitaires dans les élevages implique renforcer les capacités des éleveurs, selon Dongo Ami, représentante de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
L'émergence ces dernières années des épizooties telles que la fièvre aphteuse, la COVID-19, a mis en évidence l'insuffisance de la maîtrise des risques sanitaires dans la plupart des élevages. C'est pourquoi la FAO et l'USAID se tiennent aux côtés de la direction des services vétérinaires pour mettre en place des groupements de défense sanitaire afin de contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire de nos différents cheptels.
Le formateur docteur vétérinaire Nguessin a son volontaire formé les éleveurs, c'est assurer une sécurité des animaux mais également des hommes.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est très dépendante de l'importation des pays voisins comme le Mali et le Burkina et je pense que c'est le moment de nous pencher sur la question de l'élevage. Nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de maladies et les éleveurs ne maîtrisent pas tous les contours de l'élevage, raison pour laquelle nous venons les constituer en groupement de défense sanitaire. Leur rôle principal, c'est d'observer les signes et symptômes qu'il y a dans les élevages et les notifier aux vétérinaires privés.
Une formation bien appréciée par les éleveurs avec le témoignage de leur président, Dramera Amoy.
Pour rentrer même dans un frame, il faut te protéger d'abord avant de rentrer. On est dans un Afrique, on ne calcule pas tout ça là. Il y a des animaux, on prend dans la camion des abattoirs, on s'en va chez nous, on dépose. C'est malade, il n'est pas malade, on s'en fout. Une semaine après, il est tombé malade. Et puis aujourd'hui, on connaît ça. Donc ça nous donne beaucoup de conseils.
Ces éleveurs formés auront pour mission d'être des relais au plan local. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Prenons la direction du Bunkani où les autorités gouvernementales régionales et les partenaires clés du projet renforcer la résilience aux risques liés au changement pour la paix et la stabilité socio-économique dans le nord-est de la Côte d'Ivoire ont eu leurs compétences renforcées au cours d'un atelier la semaine dernière par l'OIM et le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Écoutons Cilia Allé, le gestionnaire du partenariat entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Union européenne sur le changement climatique et le choix porté sur la région du Bunkani.
Les objectifs du projet sont de renforcer la résilience des populations locales au changement climatique et aux impacts de ce changement climatique sur la stabilité socio-économique ici, sur les moyens de survie des populations, sur la sécurité alimentaire et puis sur les conflits aussi qu'on voit émerger liés à la concurrence pour l'eau, par exemple, entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on vient appuyer aujourd'hui.
Et pourquoi des choix spécifiques de la région de Bouna?
Parce que la région est déjà très fortement impactée par le changement climatique. On voit aujourd'hui, il y a déjà une augmentation des températures très sensibles, une diminution des pluies ou une variabilité des pluies. Et ces impacts ont déjà vraiment des conséquences importantes pour la stabilité à l'heure actuelle. Donc on va se focaliser là dans la région du Bunkani et puis pour ensuite travailler plus précisément dans les communautés frontalières du Burkina Faso, donc notamment dans les départements de Téni et d'Oropo.
C'était à l'instant Cilia Allé du Programme des Nations Unies pour l'environnement dans des propos recueillis par Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bunkani. Dans l'actualité internationale, les conclusions du dialogue national préconisant d'organiser la présidentielle au Sénégal le 2 juin, deux mois après la fin du mandat du président Macky Sall, ont officiellement été remises au chef de l'État ce lundi. Le président a bien pris note des recommandations de ses concertations avec toutes les forces vives de la nation, indique la présidence sénégalaise dans un communiqué. Et parlons des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde en 2023. Le Mali confirme son statut de premier client de la Côte d'Ivoire avec des importations en provenance de la Côte d'Ivoire pour le Mali qui ont atteint plus de 1 817 milliards de francs CFA. Comment expliquer ce dynamisme économique entre ces deux pays voisins dans ce contexte politico-diplomatique un peu tendu? Là-dessus, suivons les explications de Dr Boudjandji Emmanuel. Il est enseignant en économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké.
Le Mali est un véritable partenaire dans ces régions parce que l'augmentation des importations du Mali permet à la Côte d'Ivoire de rehausser sa balance commerciale et faire en sorte que cette balance commerciale soit non plus excédentaire.
Mais on s'étonne hein, avec les bruits politiques, on peut le dire que le Mali a avec certains pays voisins, que le commerce soit encore maintenu avec ce niveau record hein, de pratiquement 1800 milliards de francs CFA.
S'il s'avère que la Côte d'Ivoire fait des exportations à la destination du Mali, c'est que bien évidemment ces produits restent des produits encore nécessaires pour la consommation du Mali. Donc la position politique ne devrait pas objectivement influencer ces relations commerciales si évidemment les produits demandés font partie des produits de première nécessité dans la consommation du Mali. Si leur position de se retirer de la CEDEAO va jusqu'à toucher la nature des taxes sur les différents produits, alors ça pourrait influencer leur niveau d'importation. Mais tant que le positionnement politique n'influence pas les tarifs en termes de transactions sur les différents produits, alors il n'y aura pas d'influence.
Vous écoutiez Dr. Brou Djandji Emmanuel, enseignant en économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Il était en ligne avec Jean-Claude Decomé. C'est la fin de ce 18h, le rappel des titres. Les jeunes du RHDP se préparent déjà pour les futures échéances électorales. Ils ont récemment tenu à Abidjan un séminaire de réflexion pour garantir la victoire de leur parti à la présidentielle de 2025. La Côte d'Ivoire passe de BA3 perspective positive à BA2 avec perspective stable. Selon l'agence Moody's, une note qui démontre que la Côte d'Ivoire est crédible et le risque de solvabilité est supportable, explique Faustin Onozon, économiste et expert en intelligence économique que nous avons eu dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite votre magazine d'information économique dénommé Economia et piloté par Jean-Claude Comé. Excellente soirée.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'information économique à suivre sur Radio de la Paix.
L'Alliance des États du Sahel, organisation qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, envisage créer à terme sa propre monnaie qui sera une alternative au franc CFA. Le président de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, l'a évoqué dans une interview il y a quelque temps. Est-ce possible cette création de la monnaie de ces trois pays du Sahel? Quelles sont les étapes à suivre? Quels sont les avantages et inconvénients de cette option et les conséquences sur l'EMOA et la CEDEAO? Pour nous éclairer, Jean-Claude Comé reçoit dans ce numéro spécial d'Economia le professeur Yao Prao Séraphin, économiste, spécialiste des questions de la monnaie, également enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Merci.